Alors la marche chrétienne, et d'ailleurs vous le savez, je ne vous apprends rien ce matin en vous disant que la marche chrétienne, elle est faite de haut et de bas, mais ne pas rester dans le bas, toujours poursuivre le haut et aller donc à la montagne de l'Éternel. Il y a une promesse pour nous tous, peut-être pour toi ce matin, qui est dans la vallée. Cette promesse se trouve dans Luc chapitre 3 et le verset 5. Luc 3 et le verset 5. Promesse du Seigneur, hein, donc qui est apportée ici, qui fait référence également, hein, c'est un texte qui a été pris du livre d'Ésaïe. Toute vallée sera comblée. Amen. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Amen. Ça, c'est la promesse. Le Seigneur nous dit que toute vallée, elle sera comblée. Ce sous-entend qu'à un moment donné, c'est le Seigneur qui va intervenir pour venir nous chercher là où nous sommes, dans la vallée où nous sommes, pour pouvoir nous sortir et aller à la montagne de l'Éternel. On va voir une première montagne ensemble et sa signification et ce que l'on peut en tirer pour nous tous, l'enseignement que l'on peut en tirer ce matin pour nous tous. La première vallée, c'est la vallée d'Achor. La vallée d'Achor signifie trouble. Trouble, troublé, agité. Et il se peut que dans nos vies, à un moment donné, on traverse certaines situations où on est agité, ballotté, à droite, à gauche. Mais la Bible, j'aime beaucoup parce qu'il y a une précision avec le même mot, une profondeur, un sens profond. Par rapport à troubler, peut-être chacun peut se faire sa propre définition du mot troubler. Et moi, je trouve dans la Bible qu'il y a la définition de troubler, c'est une commotion interne. C'est quand même pas anodin. Une commotion interne qui va faire qu'elle va emporter la tranquillité que le Saint-Esprit a déposée dans nos cœurs. Vous avez remarqué que quand on est passé par la nouvelle naissance, quand on naît de nouveau, ce qui se passe, c'est que vient avec nous cette paix qui nous dépasse et dont on est, chacun d'entre nous, les bénéficiaires. Et cette paix, elle remplit notre cœur en se disant, Seigneur, je suis tranquille, près de toi. Et quand on est troublé, il y a cette commotion interne qui se produit à l'intérieur de chacun d'entre nous et qui vient déranger cette tranquillité, qui vient déranger la sérénité d'un homme et d'une femme de Dieu. Parce que c'est à cela que nous sommes appelés à être, dans la tranquillité et dans la sérénité. Les troubles, nous devons les rejeter. Ça peut déranger notre sérénité qui va amener de l'inquiétude. Vous vous souvenez ce qu'a dit le Seigneur, hein, dans sa parole, ne vous inquiétez de rien. Et le mot qui est important, c'est de rien. Ne vous inquiétez de rien. Alors l'inquiétude peut venir là, il peut même enlever, quand il y a l'inquiétude, le repos. Vous l'avez expérimenté, nous l'avons expérimenté, on traverse une situation, automatiquement, va faire que la paix, elle aurait tendance... on aurait tendance à moins la voir ou la ressentir, et à partir de ce moment-là, on est inquiété et ça enlève le repos. On est complètement bouleversé. Alors Jésus va venir avec une parole pour nous encourager à chacun d'entre nous, dans Jean chapitre 14 et verset 1er. C'est cette fameuse prière de Jésus. Il va dire, mais que votre cœur ne se trouble point. Et il poursuit en disant, croyez en Dieu et croyez en moi. Il faut les dire, ces paroles. Hein. Parce que Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, a pu les dire, croyez en moi. Mais croire, ça ne suffit pas. Hein. On l'a vu hier. Donc, croire, ça ne suffit pas parce que la Bible nous dit que les démons croient aussi. Et ils tremblent. Mais c'est la foi mise en action qui fait que notre cœur ne va pas se troubler par les événements qui peuvent prendre place. J'ai été surpris, oui et non, quand il y a eu ce fameux épisode du Covid, où j'ai vu certains chrétien être troublé par l'annonce de ce Covid avec une peur extrême. Alors, il y a la vigilance, évidemment, hein, quand il y a ces choses-là qui prennent place. Donc, il faut être vigilant. Mais je sentais comme une crainte, un trouble qui était là, et ça, on doit le refuser. Parce que, en fait, le Seigneur nous a fait des promesses. Le Seigneur, il a dit qu'il serait avec nous, il ne nous lâcherait pas. Et donc, que notre cœur ne se trouble point. Ici, le troublé est utilisé pour signifier que c'est s'agiter, être effrayé, être anxieux. Quand on parle d'anxiété aujourd'hui en France, on sait de quoi on parle. Parce qu'aujourd'hui, l'anxiété envahit les cœurs, mais peut y avoir une source à cela, peut-être une source de tristesse, d'angoisse. Et quand on remarque dans quel contexte ces paroles ont été dites par le Seigneur Jésus, c'est à l'annonce, il est en train de leur dire, mais il faut que je m'en aille. Il faut que j'aille et que je retourne à la place, donc, au ciel avec mon Père. Et ça va troubler un peu les disciples. Et Jésus vient avec ce message en disant, que votre cœur ne se trouble point. On remarque ici que tout se passe au niveau du cœur. Le sentiment qui sont là, ce sentiment d'abandon. Et donc, ils ont été troublés. Mais Jésus va les encourager avec cette prière, va faire cette prière extraordinaire. Hein. Je crois que quand on ne sait pas trop comment prier, on doit prendre exemple sur les prières du Seigneur Jésus et ça va beaucoup nous aider. Hein. Alors, ne pas être troublé parce qu'il y a eu l'annonce de son départ et les disciples, automatiquement, instinctivement est venue l'inquiétude concernant l'avenir. Ils ont dû se poser cette question, mais comment on va faire si Jésus part et qu'il nous laisse tout seuls? Ils ont été confrontés à leur humanité, à ce qu'ils étaient finalement. Alors, il y a une part qui est bonne quand même, de savoir qu'on est des hommes bien faibles. Mais un homme, une femme, rempli du Saint-Esprit, qui vient au nom du Seigneur Jésus-Christ, il peut faire des choses extraordinaires. On le voit partout dans la parole. Alors, eux, ils se sont inquiétés concernant l'avenir. Ils ont été déstabilisés. Je ne sais pas si vous êtes inquiets concernant l'avenir. Encore une fois, je discutais avec mon beau-frère, hein, donc le frère Henriette, là, avant-hier. On discutait ensemble, et puis il m'énumérait tout ce qui ne va pas en France. À un moment donné, il a fallu que je l'arrête, hein, parce que je n'avais pas le temps. Hein, parce que la liste est longue. Je lui ai simplement dit, il faut que ce qui est marqué dans cette parole puisse s'accomplir. Et tous ceux et celles qui ont lu cette parole, on a lu la fin du livre, et on sait comment ça se termine. Et nous, ça doit pouvoir nous encourager de nous dire, ces choses-là, il faut qu'elles arrivent. Est-ce que le Seigneur a parlé de facilité? Jamais. Si un jour quelqu'un vous dit que la vie chrétienne est facile, c'est pas le cas. Hein, parce qu'on marche à contre-courant, ça on l'a dit, avec une autre manière de penser. Mais en tout cas, ces choses-là, il faut qu'elles arrivent. Et le Seigneur ne veut pas qu'on puisse perdre cette tranquillité, cette paix qu'il nous a donnée dès que nous nous sommes tournés vers lui. Donc, ne pas s'inquiéter. Parce qu'en fait, tout simplement, que l'inquiétude ne va pas nous aider. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que combien de fois, moi, j'ai pu m'inquiéter pour certaines choses qui ne sont jamais arrivées? Et la plupart du temps, on s'inquiète pour des choses qu'on ne maîtrise pas. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez de rien, hein, également dans Philippiens, mais surtout, faire confiance à Dieu, alléluia. Et c'est ça la foi, en fait. La confiance, c'est ça. La confiance, on peut l'imager comme ceci. Hein. La confiance, si je me mets là et que je me dis, bon, je vais tester la confiance qu'a Jérôme vis-à-vis de ma personne. C'est-à-dire, Jérôme, voilà, je vais me retourner. Je vais me laisser tomber en arrière. Est-ce que tu vas me récupérer? Alors, il va me dire oui. J'espère. Oui. Oui. Mais entre Et c'est pour ça que ça n'a rien à voir avec la facilité, parce que nous sommes humains, et des fois, il peut arriver qu'on soit un peu déstabilisé. Parce qu'entre le temps où je suis plein de vigueur et je dis, ben, je vais me laisser tomber en arrière, et le laps de temps où je me laisse aller, je dis, est-ce qu'il va me retenir? C'est ça la confiance. Et Dieu s'attend à ce qu'on puisse avoir cette même confiance en lui, même quand les éléments nous prouvent le contraire. Même quand il y a des choses qui nous montrent le contraire, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. Et c'est également un test pour pouvoir rester tranquille et ne pas être troublé. Alléluia. Alors la question, elle est celle-ci. Quels sont les domaines qui m'inquiète le plus? Est-ce que c'est l'avenir? Est-ce que c'est la peur de la maladie? La peur de plein d'autres choses, de perdre son travail? Il y a beaucoup de choses qui sont là. Qu'est-ce qui peut m'empêcher de faire confiance à Dieu? Ça, c'est deux grandes questions à laquelle chacun doit répondre. Qu'est-ce qui peut empêcher cela? Puisque le Seigneur nous a fait des promesses. On ne peut pas s'imaginer toutes les promesses qu'il y a dans la parole de Dieu. Le Seigneur dit, mais je te délaisserai pas, je serai avec toi. Ne te décourage pas, je suis là. Et, sa présence, elle est là, elle nous est assurée. Alors, que personne ne se trouble, comme a pu le dire Jésus. Mais croyez en Dieu. Ça sous-entend, ayez confiance en Dieu. Et croyez en moi, ayez confiance en moi, va dire le Seigneur Jésus. Et je prie de tout mon cœur, que cette confiance, que cette foi, que l'assurance que vous avez auprès du Seigneur grandisse, parce que la foi, elle est appelée à se développer. Souvent, on se contente d'une petite foi. Certes, la Bible le dit, mais si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, et elle sauterait, elle disparaîtrait. Certes, mais moi je remarque également, et plusieurs fois, quand des personnes sont venues pour le besoin de quelqu'un d'autre, Jésus a pu dire, ta foi est grande. Donc, il y a un développement de la foi. Et pour développer, eh bien, il faut la pratiquer. Ça paraît simple, mais ça l'est finalement. C'est aussi simple que ça, pratiquer. Et dire, je ne veux pas me laisser inquiéter par quoi que ce soit. Mes destinées sont entre les mains de mon Seigneur. Alléluia. Alors, je ne crains aucun mal, que le Seigneur soit béni. Voilà la première vallée dans laquelle peut-être quelqu'un se trouve ce matin, la vallée du trouble. Le Seigneur t'appelle à sortir de cette vallée, à faire confiance à notre Seigneur. Alléluia. Mais il ne le fera jamais sans qu'il y ait une démarche de notre part. Il faut instinctivement dire, Seigneur, je veux me sortir de là. Pour rappeler le fils prodigue, qui à un moment donné, sa conscience va être touchée, il va dire, j'irai, je ferai, je parlerai à mon père. Puis ça ne va pas rester que des promesses, parce que des fois, ça s'arrête simplement qu'à des promesses, mais il va aller plus loin, et il va dire ces paroles à son père, la réaction du père, on la connaît, évidemment. Alors, ne soyez pas troublés, reprenez confiance dans le Seigneur, peu importe la situation que l'on vit, il est le Dieu de l'impossible. N'arrête pas d'espérer. Continue à exercer la foi afin qu'elle puisse se développer. Alléluia. La seconde vallée dans laquelle on peut se trouver, c'est la vallée d'Ela. Ela signifie l'orgueil, mais l'orgueil humain. C'est terrible. Hein, l'orgueil, c'est ce qui a causé la chute du bel astre. Eh oui, hein, de l'ange de lumière, Satan. Il a voulu prendre, à un moment donné, l'orgueil, il a voulu prendre la place de Dieu, il faut le faire, ça. Alors qu'il y avait certains privilèges, c'est la Bible qui nous le dit. Alors, la vallée d'Ela signifie orgueil humain, et généralement, dans la Bible, vous allez trouver que cette vallée, elle est souvent traduite par térébinthe. Térébinthe ou chêne. C'est à cet endroit-là, dans la vallée d'Ela, qu'il y a eu un combat à laquelle nous connaissons tous, une bataille, donc un combat entre deux hommes, un homme qui faisait à peu près 3,20 m, et un petit jeune homme, rempli du Saint-Esprit. un homme qui a été saisi par le Saint-Esprit. Parce que dans l'Ancien Testament, quand le Seigneur intervenait, ils étaient saisis par le Saint-Esprit à un moment donné. Et puis, il va se lever parce qu'il va y avoir donc un géant qui est là. Alors, moi, je me souviens, quand j'étais au GIP, alors, il y a très, très longtemps, quand le moniteur, la monitrice arrivait, elle commençait à expliquer, je vais vous parler de l'histoire de David et de Goliath. Alors là, je vous assure qu'elle avait toute mon attention. Ce sont des histoires qui marquent nos cœurs, parce qu'on sait comment ça se termine. Mais finalement, on peut passer à côté de certaines choses. Il y a un ennemi qui est là, qui se lève et qui chaque jour lance des intimidations. C'est ça, quand on lit la Bible, quand on lit le passage. Vous pourrez le retrouver dans 1 Samuel chapitre 17, un chapitre qui est long, qui relate toute l'histoire. On pourrait faire des séries de prédications rien qu'avec cet épisode-là. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un ennemi qui est là pour amener l'intimidation. Vous savez que l'ennemi, il continue à fonctionner toujours de la même façon. Il va essayer de nous intimider. Il est dit qu'il est comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. N'oubliez jamais que ce lion-là, il est quand même attaché. Vous vous souvenez de l'histoire de Job ? Où le Seigneur va dire, tu peux aller jusqu'à une certaine limite, mais tu ne la dépasseras pas, parce qu'il y a une autorité. N'oubliez jamais que Satan, c'est une créature. Il n'est jamais l'égal de Dieu. Je dis ça parce que des fois, il se peut qu'on ait davantage la crainte de Satan que de Dieu. La crainte est un peu comme une peur qui est là. Alors, on sait que ce géant, chaque jour, venait intimider le peuple en leur disant « Envoyez-moi quelqu'un pour qu'on puisse combattre ». L'ennemi, il va souvent nous lancer également des défis. Si tu es chrétien, ou alors, quand on n'a pas été à la hauteur, vous l'avez expérimenté aussi, je l'ai expérimenté, et que nous n'avons pas été à la hauteur à un moment donné dans notre vie, il vient assez rapidement pour nous culpabiliser en disant c'est ça un chrétien. Et après, tu dis que tu aimes Dieu, après tout ce que tu fais, il y a une part de vérité. Mais le Seigneur nous dit que si on confesse de notre bouche, si on avoue notre transgression, vous rappelez David qui va dire « Tant que je me suis tué, mes os se consumaient ». Il y avait une conséquence qui était physique. Mais quand il a confessé, quand je t'ai avoué mes transgressions, alors le Seigneur l'a rétabli. Il a réhabilité, alléluia. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est ce même homme qui a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Ça doit nous encourager ce matin. De savoir qu'un homme comme lui, qui a fait des belles choses et des choses moins belles, donc à un moment donné, il a pu le verbaliser. Et c'est une belle leçon pour chacun d'entre nous de pouvoir dire à chaque fois que je m'éloigne, que je ne suis pas à la hauteur, que je trébuche et je vais aller même plus loin, que je pêche. Je dois pouvoir le confesser au Seigneur. Et dans le livre d'Ésaïe, il est dit que Dieu est un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Nous, on peut se lasser assez vite, mais pas notre Seigneur, alléluia. Alors l'ennemi vient pour intimider, pour lancer des défis, afin que nous soyons déstabilisés. Et il se peut que dans nos vies, à un moment donné, on ait porté nos regards ailleurs que sur le Seigneur, et on est déstabilisé. Un peu comme Ève, vous vous souvenez ? Ève, lorsqu'elle a été tentée, et puis elle va commencer à se poser, elle va laisser entrer cette parole de l'ennemi. Dieu a-t-il réellement dit ? En l'acceptant, elle met en doute la foi, la confiance au Seigneur. On sait toutes les conséquences qui en a découlé. Et l'ennemi, il agit comme ça, il essaie de nous déstabiliser. La Bible nous dit de nous ressaisir, de regarder en direction du Seigneur et d'acquérir pour nos vies de la stabilité spirituelle. Et ensuite, quand il y a l'intimidation, il nous lance des défis, il y a de la déstabilisation, vient avec cela le découragement. Qui au milieu de nous ne s'est jamais dit « À quoi bon continuer ? À quoi bon poursuivre ? Pourquoi ? Au plus je m'avance du Seigneur, au plus j'ai des difficultés, j'ai la sensation que je crie au Seigneur et qu'il ne me répond pas. » J'aime bien le dire comme ça, c'est une sensation. Hein. Le Seigneur n'abandonne jamais personne. Et le découragement, en fait, ce n'est pas un péché. Ça peut nous arriver d'être découragé. Là où il y a un souci, c'est quand on reste dans ce découragement. Et à un moment donné, le Seigneur, dans sa grâce, il va nous interpeller par une prédication, une louange. Au moment où ça nous est arrivé, hein, une louange, un message. Un frère, une sœur qui vient nous trouver en disant « Il faut que tu te ressaisisses. » Et puis, il y a des démarches à faire. De nouveau s'encourager, être dans la présence du Seigneur. Vous avez remarqué avec moi que quand le Seigneur vient nous visiter, quand on est visité par la présence du Seigneur, il y a spontanément dans notre cœur cette prière, cette promesse au Seigneur. Et on se sent fort. On se sent indestructible. Je ne sais pas vous, hein. Quand on sort d'une réunion, quand on sort d'un moment avec notre Dieu, où le Seigneur est venu, il nous a visités, j'espère que vous le vivez. Hein. Alors vous êtes dans la réflexion, vous me direz ça tout à l'heure. Ben oui, parce qu'en fait le Seigneur vient, et dans sa présence, il vient nous renouveler. Et combien de fois c'est arrivé où on est rentré dans le lieu de prière, complètement découragé, et puis le Seigneur est venu, il nous a visités de façon extraordinaire, et on est sorti du lieu secret plein de courage, en disant « Seigneur, je veux me lever, et je veux combattre voilà, ces choses qui veulent peut-être me décourager. » Alors le découragement, c'est arrivé à un homme de Dieu, Élie, qui était découragé. Il a été tellement découragé qu'il a demandé la mort. Terrible ça. Seigneur, il est préférable que je meure. Que va faire le Seigneur? Il va l'encourager. Il va lui envoyer donc un ange pour le relever. Cruche d'eau. Avec un gâteau qui vient du ciel. Et avec ces aliments, en fait, ça va lui redonner de la force. Et il va pouvoir se lever et continuer le combat. Amen. Alors, peut-être que quelqu'un est découragé ce matin. Une situation où depuis tant d'années, on prie le Seigneur et le Seigneur, il n'intervient pas. Sachez que si le Seigneur n'intervient pas, ce n'est jamais pour essayer, c'est jamais négatif. Si le Seigneur n'intervient pas, il travaille déjà par son Saint-Esprit. Nous devons être alertes, avoir cette sensibilité afin de reprendre courage. Alléluia. Il y a un petit détail également auquel j'aimerais m'arrêter dans cette vallée des là. C'est quand il y a eu ce combat entre Goliath, David et Goliath, on s'aperçoit qu'à un moment donné, même les meilleurs scénaristes d'Hollywood n'auraient pas pu inventer cette histoire. Hein. Rendez-vous compte, hein. Cinq pierres, la première, bam, en plein milieu dans le front. Il tombe à terre. Quand il est à terre, il aurait pu se dire, bon, voilà, c'est terminé, il est à terre. Peut-être que l'armée d'Israël a commencé à crier la victoire. Il aurait pu s'arrêter là. Il nous a dit qu'il va courir. Il va sortir l'épée et il va couper la tête. Et je crois qu'il y a des choses qui doivent être coupées dans nos vies. Et plus que jamais, arrachées pour qu'il n'y ait plus, que ce n'ait plus d'influence sur nos vies. Alors chacun pourra faire, voilà, réfléchir à ce qui est, à ces choses qui les retiennent. Il en cite peut-être une. Le passé, terrible, hein, le passé qui est là, où à un moment donné, on a reçu le pardon de Dieu et on continue à vivre comme un condamné. Alors que le Seigneur a pris la condamnation, il l'a déchiré. Le verset qu'a pu lire Vincent ce matin, c'est ça. Hein. Les choses anciennes sont passées, voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Toute chose, même ton passé. Quand je repense, moi, à mon propre passé, je vous promets qu'il y a des choses qui me font honte de certaines attitudes que j'ai pu avoir. Mais ça ne me condamne pas. Parce que je me dis, on ne peut pas me condamner pour cela, parce que la dette a été payée. Et je ne peux pas vivre Je ne peux pas continuer de vivre avec ce passé qui m'handicape. Faire un trait, être guéri par le Seigneur, se laisser guérir par le Seigneur. Le Seigneur pourrait lancer peut-être ce matin cette question. Que veux-tu que je te fasse? Il l'a dit, hein, à plusieurs reprises. Que veux-tu que je te fasse? J'aime beaucoup également, vous rappelez l'histoire d'Agar, la servante d'Abraham. Vous connaissez toute cette histoire, cette femme frustrée, dans son cœur, elle est rejetée. Le rejet, c'est terrible. Hein. Elle est rejetée dans le désert. Le Seigneur va intervenir, et j'aime beaucoup, hein, vous le lirez à la maison, j'aime beaucoup parce qu'il est dit, Agar, qu'est-ce que tu as? Je vous promets que c'est dans la parole. Hein. Agar, qu'est-ce que tu as? Le Seigneur, par son Saint-Esprit, vient nous dire, qu'est-ce que tu as? Dis-moi ce que tu as. Ce qui sous-entend, j'ai la capacité de guérir ton cœur, de régler ta situation. Dites au Seigneur ce que vous avez. Une peine, certaines, on ne va pas énumérer ici, mais apportez au Seigneur. C'est dans le lieu, avec un secret avec le Seigneur, c'est là où tout se passe. Alléluia. On s'aperçoit que le térébenthe, cette vallée des là, hein, c'est la vallée des térébenthes. Les térébenthes, ce sont des arbres à bois dur. Quand on commence à couper, hein, même à la tronçonneuse, c'est des arbres à bois dur. Ben, en fait, c'est exactement l'image du cœur de l'homme qui est dur comme de la pierre. C'est la parole qui le dit, hein, Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Regardez l'opération du Seigneur là. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair sensible, malléable. Alléluia. Avoir un cœur de pierre, justement, c'est être insensible. On voit au travers de ce verset, il y a un constat qui est là. Le cœur, il est dur comme de la pierre. Il n'y a rien qui pénètre. Alors, il y a un changement qui doit s'opérer. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait, encore une fois, dans nos vies. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je remarque également où il est dit, je vous donnerai. Ce qui sous-entend, c'est gratuit. On n'a rien à payer. C'est un don du Seigneur, celui qui désire s'approcher du Seigneur. Le Seigneur dit, je te donnerai, je te le donne, le don du Seigneur. Un cœur nouveau. Et on prie de tout notre cœur, que les cœurs changent, qu'il n'y ait pas ces cœurs durs, insensibles, mais justement ces cœurs sensibles. Le térébenthe, c'est un arbre majestueux également, qui est apprécié pour son ombre. Il y a un passage qui dit que l'Éternel est l'ombre à ta main, à la main droite, qui parle de l'autorité de notre Seigneur. Et des fois, quand on traverse l'épreuve de la vie, le soleil qui frappe, on a besoin de trouver de l'ombre. Vous avez remarqué, quand il y a la canicule en plein été, on cherche l'ombre. Et quand il y a un moment de fraîcheur, il y a comme un apaisement qui vient. C'est la même image qui est donnée ici. Il est l'ombre, il veut être notre ombre. Et que le Seigneur nous aide à sortir également de cette vallée qui est l'orgueil humain, qui est cette résistance, et que nous soyons finalement malléables entre les mains de notre Seigneur. Alléluia. Une prochaine vallée avec son enseignement, c'est la vallée de Josaphat, qui signifie jugement. Joël, chapitre 3, verset 13. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers où? Vers la vallée de Josaphat. C'est là que je siégerai. Pourquoi faire? Pour juger toutes les nations d'alentour. Donc, la vallée de Josaphat signifie jugement. Ici, le Seigneur dit que les nations se réveillent. Je crois que ça doit être le sujet de prière numéro un dans nos cœurs. Seigneur, tiens-moi éveillé. Il n'y a rien de tel quand quelqu'un qui a connu le Seigneur, il commence à s'endormir. Et en général, c'est comme ça que ça arrive. Un peu d'assoupissement, un peu de sommeil, et puis la pauvreté, nous dit la parole, nous surprendra. Alors, un chrétien doit être réveillé, éveillé, ce que dit le Seigneur, que les nations se réveillent. Et je crois que dans notre cœur, nous devons faire cette prière. Seigneur, tiens-moi éveillé, tenons-nous ensemble en tant qu'Église, éveillés, réveillés, alléluia, et que nous ne puissions pas être endormis. Et peut-être que c'est un moment de pouvoir nous réveiller, chacun d'entre nous, et de ne pas somnoler. C'est difficile de combattre contre le sommeil. Des fois, alors je vais vous le dire, je vous vois quand vous commencez à piquer du nez et que vous combattez. Je vous assure que monte en moi une intercession. Seigneur, réveille mon frère, réveille ma sœur. Il y avait un pasteur, oh, je ne le ferai pas, il y avait un pasteur qui, quand il voyait que ça dormait un peu, il tapait fort dans les mains et du coup, ça sursautait et c'était reparti pour 10 minutes, un quart d'heure. Parce que je comprends. Il fait bon ici, la chaleur. Vous savez que c'est exactement comme ça que l'ennemi procède. Tout va bien. Voilà, on est tranquille. Et puis on commence à s'endormir. Mais le Seigneur veut nous réveiller, c'est ce qu'il nous dit ici. Que les nations se réveillent et qu'elles montent, voyez. C'est pas le Seigneur qui va les faire monter. C'est ici une réaction personnelle. Enfin, là ici c'est par rapport au peuple. Que les nations montent vers où? Vers un endroit, la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger les nations. On sait que le Seigneur revient bientôt, on l'a entendu ce matin. Encore une fois, ce n'est pas le temps de se préparer, c'est être prêt. Et ça, nous n'avons pas de capacité, nous, humaines, à part que le Seigneur nous le révèle, de savoir qui est sauvé, qui est perdu. Mais nous prions de tout notre cœur que nous tous qui sommes réunis ce matin, ici, là, dans cet endroit, que nous soyons tous sauvés, que ce problème soit réglé, parce qu'avec ça va venir l'assurance de la vie éternelle. Cette assurance, elle est extraordinaire. Elle dit que c'est comme une ancre solide qui est attachée à notre âme. Et des fois, même sous la pression de je ne sais quoi, on n'est pas ballotté. On reste ferme dans nos convictions parce qu'il y a cette assurance. J'espère que vous avez cette assurance, que vous êtes sauvés et que le Seigneur vous réserve donc la vie éternelle. Si ce n'est pas le cas, et c'était le message ce matin, c'est de rectifier la situation. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu n'est pas résolu à ce qu'il y ait une seule personne qui se perde ce matin. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez sauvés. Et pour ça, il y a une démarche de votre part. Reconnaître tout d'abord qu'on est perdu. Il n'y a rien de pire que la religiosité, mais du mauvais côté. Vous savez qu'il y a un bon côté, la religiosité. Religiosité veut dire relier, être ensemble. Alors évidemment, être relié, être ensemble, c'est ce que le Seigneur veut. Mais il y a une mauvaise interprétation de la religiosité. C'est faire les choses par habitude. Et hélas, si on ne combat pas, déjà, humainement, voilà, si on n'est pas sans cesse renouvelé, il y a des habitudes qui s'installent. Et je crois que plus que jamais, nous avons besoin de nous poser, de réfléchir, parce qu'il va y avoir ce jugement, et je veux être prêt pour le retour du Seigneur. Et vous savez, quand on réalise ces paroles, en quelques secondes, on peut passer de mort à vivant. C'est simplement de reconnaître, Seigneur, je suis perdu, j'ai besoin de toi, Seigneur, pardon pour mes péchés. La Bible nous dit qu'à partir de ce moment-là, nous devenons enfants de Dieu, alléluia, amen. Et il n'y a rien de mieux que de se sentir enfant, fils et fille du roi. Amen. L'importance de se réveiller parce que le Seigneur revient, et la cause de cela, ce n'est pas que Dieu soit méchant, c'est que le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Jérémie, chapitre 17, versets 9 et 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître ? Question. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alors, ici le Seigneur, c'est lui qui voit si le cœur est tortueux ou alors s'il a été redressé par le Seigneur. On prie pour que les cœurs soient redressés, qu'il y a cette transplantation divine, un cœur nouveau. Mais sachez qu'il n'y aura pas d'échappatoire quant au jugement de Dieu. J'ai déjà entendu des personnes dire, quand je vais me retrouver devant Dieu, je vais lui dire les quatre vérités. Vous savez ce que nous dit la Bible par rapport à ça ? Quand on va se retrouver devant Dieu, toute bouche sera fermée. Face à la sainteté, la seigneurie, la pureté de notre Seigneur, toute bouche sera fermée. On ne pourra rien dire. Et finalement, ceux qui ne seront pas au Seigneur, leurs œuvres vont les condamner. Et ils ne pourront rien dire. Personne ne peut échapper au jugement de Dieu. On ne prêche pas en véhiculant la peur. Certains se sont donnés au Seigneur parce qu'ils ont eu peur, à un moment donné, une peur qui finalement n'était pas bonne. En disant, mais voilà, je suis perdu et donc il y a une peur qui est là. Mais en tout cas, il faut dire la vérité. C'est qu'il y a un jugement et il s'en vient. Pour le méchant, ça sera un jour terrible. Que personne ne puisse dire... Voilà, que ça va être un endroit tranquille. La Bible nous donne quelques renseignements dans Luc chapitre 16. Qui est ce méchant ? Le méchant, c'est celui qui est loin de Dieu. Mais Dieu veut que le méchant abandonne sa voie. Ésaïe 55, verset 7. Là, on voit la volonté de Dieu. Dieu veut que le méchant, c'est-à-dire celui qui est loin de Dieu, abandonne sa voie. Mais par contre, pour l'homme de Dieu, pour la femme de Dieu, ça sera un jour de joie. Alléluia. Je l'ai entendu avec des prières ce matin qui sont montées vers le trône de la grâce. La perspective des moments glorieux que nous allons vivre, ça réjouit notre cœur. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Je vais arrêter là. Le temps passe. J'avais encore quelques vallées à voir avec vous. Je vous donne déjà les prémices. Et puis la prochaine fois, alors pas dimanche prochain, parce que... ni celui d'après, mais quand ça sera à mon tour de reprêcher, on poursuivra avec la vallée des pleurs, psaume 84. Et des pleurs, il y en a dans les vies. Mais il y a une solution. Vous le lirez là, donc en préambule, et puis on verra ensemble. Puis il y a la vallée de Béraka, Béraka. La vallée de Béraka signifie bénédiction. Alors c'est la vallée où on veut tous y être. La vallée de la bénédiction de Dieu. On pourra voir ça ensemble. Et puis, la vallée d'Eshkol, qui signifie fertilité. Amen. Donc voilà, je fais un teasing là, pour la prochaine fois. Mais en tout cas, voilà, je termine en vous disant qu'il y a eu plusieurs vallées. Peut-être certains se sont reconnus à un moment donné, des situations que l'on veut vivre. Si ce matin, vous avez compris que le Seigneur, au travers de ce message, vous parle en vous disant, il est temps que tu sortes de cette vallée et que tu ailles à la montagne de l'Éternel. Si on se dispose à faire une action en disant, dans notre cœur, Seigneur, je veux que ça change, je veux que la situation elle soit rectifiée, je te fais confiance pour toute chose. Vous savez quoi ? Le Seigneur va vous étonner, il va nous étonner. Dieu est étonnant. C'est pour ça que quand je reçois des messages, alors ça réjouit mon cœur, quand je reçois un message ou un témoignage, quelqu'un vient me voir et me dire, voilà, pasteur, voilà, j'ai prié le Seigneur, et puis voilà, on me raconte une histoire extraordinaire, le Seigneur a opéré un miracle. Ça ne m'étonne pas parce que je sais de quoi Dieu est capable. Il est capable d'ouvrir une mer en deux. Le peuple passait à sec. Il est capable de ressusciter les morts. Il est capable de ramener à la vie. Il est capable de nous guérir. Vous pouvez vous citer plusieurs témoignages des personnes sur leur chaise, sans qu'ils demandent quoi que ce soit, même des fois découragés, après avoir prié tellement de fois, « Seigneur, guéris-moi pour ceci ou pour cela », à un moment donné sur leur chaise, sans qu'ils demandent quoi que ce soit, guéris la grâce de Dieu. Que nous puissions encore compter sur la grâce de Dieu. Ne pas rester là où vous êtes, mais prendre cette décision d'aller plus loin. Voilà, c'était un message pour vous encourager, s'encourager ensemble et sortir de la vallée. Que Dieu soit béni. Amen. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. En effet, Seigneur, il y a ces vallées que l'on retrouve dans ta parole. Mais tu nous invites, Seigneur, à ne pas rester dans certaines vallées, mais à aller, Seigneur mon Dieu, vers ta montagne. Parce que c'est en regardant en direction des montagnes, c'est de là que vient le secours. Le secours vient de toi qui as fait le ciel et la terre. Seigneur, nous confessons ce matin qu'il y a des situations qui sont là. Seigneur, je te prie pour mon frère, ma sœur qui est dans une vallée. Seigneur, qu'il puisse y avoir une prise de conscience ce matin. Et Seigneur, reprendre courage en disant « Je me lèverai ». Et je veux aller vers la montagne. Alléluia. Seigneur, bénis mon frère, ma sœur, ceux qui sont parmi nous ce matin, Seigneur, et qui te recherchent. Seigneur, sauve également, parce qu'il y a un jugement qui est là, qui vient. Seigneur, tu reviens bientôt. Et Seigneur, que personne ne se perde. Seigneur, parle encore au cœur et qu'il y ait, Seigneur, vraiment de la repentance et que chacun revienne de ses mauvaises voies. Alléluia. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, pour cette matinée. Merci pour ces moments que nous avons passés avec toi. Merci parce que tu nous as visités, Seigneur. Continue de bénir, Seigneur, le reste de la journée, la semaine, Seigneur, nous voulons continuer à prier, à intercéder, Seigneur mon Dieu, pour la semaine prochaine, Seigneur Jésus, et Seigneur, vendredi, samedi, Seigneur, que des âmes puissent entendre, Seigneur, ce message de l'Évangile, cette bonne nouvelle, Seigneur, et que nous tous, nous soyons ici présents, Seigneur, et que nous répondions à la convocation. À toi la gloire et l'honneur. Merci, ô notre Dieu. Amen.